mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 10 février 2026. On commence tout d'abord par un petit point météo, au cas où vous ne seriez pas au courant, une alerte grosse tempête est prévue et s'annonce sur les prochains jours. Hein. Les derniers scénarios d'évolution météo confirment un risque de tempête de forte intensité sur la région autour de jeudi, avec un risque non négligeable d'entraîner des dégâts importants et de mettre en danger la population, notamment des chutes d'arbres, etc. Puisque des rafales de vent supérieures à 140 km/h sont possibles pendant plusieurs heures, peut-être même 180 sur des secteurs très exposés, hein, tout ce qui est col et crête, etc. Voilà, les affinages des estimations vont peut-être revenir un petit peu à la baisse, mais dans tous les cas, ça va souffler très fort. Donc préparons-nous un événement sérieux et suivez bien un petit peu ce qui se passe. Là, c'est par exemple la page Météo Languedoc qui donnait ces informations ce matin. On s'intéresse au communiqué transmis par les participants de l'ETUV, une salle polyactivité qui est à Pondéreau et qui a été fermée en octobre 2025. Je vous en avais parlé déjà. Fermée par les autorités suite à un contrôle ERP, établissement recevant du public. Voici un communiqué qu'ils viennent de diffuser via leur liste de mails d'adhérents. Et plus largement qui commence à circuler sur les réseaux sociaux. Donc il est rappelé que ce contrôle ERP, hein, qui concerne les règles de sécurité et d'accessibilité pour l'accueil du public, ont conduit à sa fermeture administrative totale, et ce pour une durée indéterminée. Cette décision a donc mis en arrêt de manière brutale et univoque toutes les activités qui s'y tenaient, à savoir des cantines hebdomadaires, les cantines du jeudi, des événements publics, que ce soit des concerts, des projections, des réunions, rencontres ou écoutes sonores, mais aussi l'accès à un dojo, où avaient lieu différentes activités sportives, à la salle de répétition dans laquelle 4 ou 5 groupes répétaient de manière régulière, et également l'accès à plein d'ateliers de personnes qui utilisaient donc ces espaces pour y pratiquer leurs activités. Aucune solution n'a été proposée par les autorités, à part une mise en conformité. Ça reste assez vague, ce qui est pour donc les utilisateurs un mépris face au rôle social et culturel des activités de l'ETUV depuis plus de 11 ans dans les vallées Cévenoles, qui sont touchées, comme de nombreux autres territoires ruraux, par la précarité et l'isolement. À savoir que la commune de Pondéreau est en cela pratique, puisqu'elle est à la jonction de plusieurs vallées, notamment entre le Vigan et Ganges. Après un long processus de réunions et de discussions internes, et si l'étude de faisabilité, qui est lancée grâce à des camarades architectes, confirme donc la possibilité d'essayer de se conformer à la réglementation pour un ERP, eh bien, ils envisagent donc l'achat collectif du bâtiment. Et en attendant, eh bien, c'est une location, donc il s'agit de tenir. Le propriétaire du bâtiment a en effet accepté de baisser temporairement les loyers, ce qui laisse quelques mois, mais il y a quand même des loyers à payer. Et dans la mesure, eh bien, donc, où plus aucune utilisation des locaux ne peut se faire, les cotisations et donc les finances s'amenuisent. Et c'est donc un des points qui est soulevé dans ce tract. Hein. Tout le monde peut participer aux charges de l'ETUV, le temps donc de faire ses études de faisabilité et d'aller peut-être plus loin dans un processus d'achat. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour vous faire expliquer la manière de participer. Et en attendant, les activités publiques autour de la situation de l'ETUV vont commencer à se mettre en place. Ils disent donc que c'est parce que ils sont déterminés à ne pas se laisser envahir par la résignation et à ne pas rester isolés en résistant à cette fermeture, que l'ETUV donc lance enfin une invitation. A savoir tout d'abord ce samedi 14 février, donc dans 15 jours, à la petite base au Vigan, jour de marché, pour le lancement des cantines de l'ETUV hors les murs, et ça sera une fois par mois. avec les cuisiniers, cuisinières fameux qui vous proposeront donc de la bonne nourriture à prix libre et en soutien, donc vous l'aurez compris, à la situation compliquée de l'étuve. Une autre date, certainement le samedi 21 mars, pour une grande soirée de soutien avec un lieu encore à préciser. Voilà, ils expliquent aussi qu'il y a eu pas mal de réunions depuis la fermeture, qui ont été organisées plutôt en cercle fermé hein, avec les utilisateurs. Donc pour l'instant, c'était des réunions qui n'étaient pas publiques, jusqu'à justement se décider sur les différents scénarios possibles. Mais en tout cas, n'hésitez pas à leur écrire si vous souhaitez donc participer et savoir comment aussi cotiser de manière mensuelle, par exemple. Ça peut être sympa, un petit prix, mais si tout le monde s'y met, ça peut vraiment faire la différence. Le mail, c'est letuve, L-E-T-U-V-E, @riseup.net, tout simplement. Et puis, on vous expliquera tout ça. Et c'est donc signé et terminé contre le capitalisme et son monde, contre toutes les formes d'oppression et contre l'isolement.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
On part maintenant du côté de la lutte entre Israël et pas mal de ses voisins, et une lutte qui prend des tournures écocidaires. Israël a en effet bombardé le Liban et la Syrie avec du glyphosate. Les herbicides sont une arme donc. 50 ans après la guerre du Vietnam, l'agent orange, le napalm, a-t-on trouvé son successeur, le glyphosate. On rappelle d'ailleurs que ce sont les mêmes industriels, c'est une filiation directe entre les pesticides et justement ces armes qui ont été utilisées à l'époque contre les Vietcong pour justement faire tomber les feuilles des arbres. L'armée israélienne a en effet répandu donc du glyphosate, qui est interdit dans plusieurs pays pour ses effets cancérigènes, le long de ses frontières avec le Liban et la Syrie. C'était dimanche dernier, le 1er février. L'information vient d'être validée. Les casques bleus de l'ONU, qui étaient présents au Liban Sud, ont d'ailleurs dû se mettre à couvert pendant 9 heures, puisqu'ils avaient reçu un avertissement de la part de l'armée d'Israël, comme quoi des avions répandraient donc des substances toxiques sur des terrains boisés, des oliveraies et des vergers libanais pendant une journée entière. Dès les premières heures, le Liban, qui est régulièrement en proie au bombardement israélien, et ce malgré le cessez-le-feu, qui a été signé en novembre 2024, a été donc pris d'effroi. Le président du Liban, Aoun, a dénoncé cette pulvérisation comme une violation flagrante de la souveraineté libanaise et un crime contre l'environnement et la santé. L'ONU aussi dénonçait d'ailleurs cet épandage en attendant les résultats de laboratoires qui sont donc arrivés. L'armée israélienne, elle, contactée par les journalistes de reporters, n'a pas donné suite aux sollicitations. Et donc, suite à des tests, la substance suspecte a donc été clairement identifiée. C'est du glyphosate à 100% et dans des doses qui dépassent de 30 à 50 fois les doses habituelles qui seraient pour une utilisation dans l'agriculture. Ce sont les mots du ministre libanais de l'Agriculture, Nizar Hani, dans un coup de fil qu'il a passé, lui, avec les journalistes de reporters. Le glyphosate, un herbicide chimique, aurait affecté donc une zone de 18 km de long, 300 mètres de large, ce qui fait environ 540 hectares le long de la frontière libanaise, autour notamment des communes de Haïta al-Shab et Marawahin, des villages frontaliers dans lesquels d'ailleurs reporters s'étaient rendus à plusieurs reprises. Cette attaque peut donc créer des dommages importants, surtout à des concentrations aussi élevées. Les oliviers, les vergers et les chênes peuvent s'assécher et mourir en 48 heures. S'indigne donc le ministre de l'Agriculture. Plus tard, il a d'ailleurs transmis des vidéos d'agriculteurs qui filment justement leurs oliviers et leurs champs qui deviennent complètement jaunis juste quelques heures après le passage de l'avion. Pour le ministre libanais de l'Agriculture, la tactique israélienne est claire. Israël utilise maintenant le glyphosate, comme le phosphore blanc et les démolitions, pour détruire le couvert qu'offrent les arbres aux combattants du Hezbollah. Une étape de plus donc dans cet écocide que dénonce la société civile libanaise au Liban Sud après 30 mois de guerre. Fin janvier puis début février, ce sont aussi les zones agricoles de Kouneitra, dans le sud de la Syrie, là, qui ont vu aussi des avions israéliens répandre des substances toxiques au moins 3 fois de suite. Tsahal occupe illégalement non seulement le Golan, le désert du Golan, mais aussi donc des zones frontalières depuis la chute du régime d'Assad en décembre 2023. Et Tsahal augmente sans cesse son rayon d'action en harcelant notamment les agriculteurs locaux. À travers des vols de bétail, des tirs, des démolitions de fermes ou des champs rasés, l'épandage du glyphosate n'est donc qu'une étape de plus dans cette intimidation constante. L'utilisation du glyphosate, hein, substance classée comme cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé, n'interroge d'ailleurs pas seulement en temps de guerre. Et il est rappelé par les journalistes que les débats publics en Europe devraient traiter les herbicides puissants comme des substances à double usage, donc comme une arme, pour renforcer les débats actuels sur la réglementation et les risques. Un rappel utile peut-être en ce moment de plein débats qui reprennent autour de la loi du plomb et du Mercosur.
Ah, les rebolles, tout ça, mais c'est écœurant à la fin.
D'ailleurs, dans le cadre de cette loi du plomb qui fait son retour, une trentaine de manifestations ont eu lieu ce week-end d'Albi à Valenciennes. Une trentaine de rassemblements à travers toute la France pour s'opposer à la loi du plomb. Ces rassemblements ont été dénombrés par l'AFP. Il et elle étaient donc par exemple une dizaine à Brest, une centaine à Bordeaux, 150 à Lyon ou jusqu'à 300 à Lille pour répondre à l'appel de 80 organisations parmi lesquelles Greenpeace, la Confédération Paysanne ou Foodwatch, tout opposé au texte du sénateur Duplomb, un sénateur étiqueté Les Républicains. Une loi qui va faciliter la construction de méga-bassines ou l'agrandissement de bâtiments d'élevage. Une loi qui prévoyait également la réautorisation de l'acétamipride, un insecticide néonicotinoïde toxique pour les abeilles. Mais cette disposition, justement, vient d'être censurée par le Conseil constitutionnel. Un grand rassemblement est prévu demain, mercredi à Paris, devant l'Assemblée nationale, qui sera justement le jour de débat au Palais Bourbon sur cette fameuse loi Duplomb. Encore d'autres atermoiements sans fin juridiques autour de questions environnementales, et c'est le dossier de l'A69. Atteindra-t-on bientôt peut-être le bout de cet interminable tunnel juridique dans l'affaire de l'autoroute A69? Eh bien, les militants qui s'y opposent, ce projet autoroutier censé relier Toulouse et Castres, croient dur comme fer que la justice sera rendue. Le 8 février, 11 co-requérants ont en effet déposé un recours devant le Conseil d'État, ce qui est la plus haute juridiction administrative française. L'objectif est bien de tenter de faire annuler le jugement de la Cour d'appel de Toulouse et d'obtenir donc un sursis à exécution pour stopper les travaux de la 69. Ce jugement devant le Conseil d'État marquera la fin d'un acharnement d'État pour imposer à notre territoire un projet d'intérêt privé dénué de toute utilité objective et non fondée en droit. C'est en tout cas ce qu'espère, à travers ce communiqué, le collectif La Voix est libre, qui est lui aussi acteur de cet énième rebondissement judiciaire. Ce chantier chaotique cumule d'énormes retards, il est encore très loin d'aboutir. Il est temps de mettre un terme à ce saccage, d'éviter aux contribuables 55 ans d'une concession sous perfusion d'argent public, ce qui deviendrait le plus gros fiasco écologique, économique et financier de ces dernières années. Pour rappel, le 30 décembre dernier, c'était la Cour administrative d'appel de Toulouse donc, qui scellait l'avenir de l'autoroute en autorisant la poursuite du chantier, une décision qui allait 100% à l'opposé de celle prise en première instance. Un an auparavant, les juges avaient en effet déclaré illégale la destruction d'espèces protégées induites par le chantier, et ce, faute justement d'un intérêt public suffisant. Désormais, ça va être donc au Conseil d'État de trancher un arbitrage supplémentaire qui pourrait lui intervenir uniquement dans quelques mois.
L'espoir est la base de toutes les rébellions.
Mais il n'y a aucun espoir.
Moi, je dis qu'il faut se battre.
Allez, on change de sujet et on va s'intéresser un petit peu aux monnaies virtuelles, les fameux cryptos, les crypto-monnaies. Ça devait être le nouvel étalon or digital des États-Unis et du monde, une monnaie refuge qui protégerait de tous les accidents économiques, politiques, car elle ne dépendrait justement d'aucun État. Eh bien, les cryptos sont en grosse banqueroute. Un an après avoir promis de faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptoactifs, Donald Trump ne peut que constater sa déroute. Le Bitcoin, notamment la monnaie de référence du monde des cryptos, a connu sa pire semaine depuis 2022. Et donc, dans sa chute, il a entraîné tous les autres cryptoactifs. Je vous les cite, même si j'en avais aucune idée, à savoir Tether, Ethereum, Solana. Tous ont chuté à sa suite. Depuis le 31 janvier, le Bitcoin a perdu 36% de sa valeur. Et donc, tous les gains que ce secteur avait enregistrés cours de la première année du mandat de Trump, puisque le Bitcoin avait atteint jusqu'à 126 000 dollars au mois de mai, et bien depuis, tous ces gains ont été effacés, disparus, envolés. Un vaste mouvement de liquidation semble même s'être engagé depuis, hein, puisque tous les détenteurs de jetons ou de crypto-actifs semblent vouloir s'en débarrasser au plus vite avant que la baisse ne continue de tout emmener sur sa route. Toutes les entreprises qui sont liées au monde des cryptos, en tout cas, sont touchées. Le milliardaire Michael Saylor, un peu le gourou du secteur, a vu par exemple le cours de sa société MicroStrategy baisser de presque 15% dans la seule journée du 5 février. Ce milliardaire avait lourdement investi dans le Bitcoin et il avait annoncé 12 millions de dollars de pertes au quatrième trimestre 2025. La société Gemini Space Station, qui est elle contrôlée par des milliardaires, à savoir Tyler et Cameron Winklevoss, elle annonçait le 5 février un quart de ses effectifs supprimés et elle annonçait aussi fermer toutes ses filiales en Europe et en Grande-Bretagne. Bon, c'est pas la première fois que ce secteur des cryptos connaît des baisses retentissantes. Après l'explosion de la plateforme FTX, qui a été prise dans des scandales et des fraudes en 2022, le Bitcoin était tombé en dessous des 22 000 dollars. Des acteurs des cryptos avaient alors, à l'époque, dû mettre la clé sous la porte. Mais la situation semble différente aujourd'hui. Le monde des cryptos n'est plus seulement celui d'une secte composée de libertariens, technophiles ou autres adeptes de la spéculation. C'est devenu un segment à part entière des marchés financiers. Et ce, notamment porté par une volonté farouche du président américain d'en faire l'actif financier de son second mandat. Et d'ailleurs, il faut noter qu'une partie de ces gens qui misent en crypto, ont une action qui est largement portée par leurs agents, les agents IA, dont on a parlé aussi la semaine dernière. Les IA ont un énorme rôle aussi dans la gestion de tous ces portefeuilles de monnaie crypto. Bref, Donald Trump, à peine de retour à la Maison-Blanche pour son deuxième mandat, il s'est empressé de signer des ordonnances, executive orders en anglais, et de lancer des projets de loi, comme le Genius Act, un acte de loi qui supprime toutes les réglementations et les contrôles dans ce secteur. C'était d'ailleurs une promesse de campagne, une demande impérative des dirigeants de ce monde, ceux notamment qui ont signé des chèques pour la campagne de Donald Trump. Dans la foulée aussi de sa réélection, toutes les poursuites contre les dirigeants de plateformes qui auraient été soupçonnés ou condamnés à des fraudes, comme par exemple Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, ont été suspendues, donc un blanchiment pour tous ceux qui œuvrent dans ces dossiers. Donc vraiment un monde qui est fortement lié à l'investiture de Donald Trump. D'ailleurs, pour soutenir son grand projet de crypto-monnaie à l'échelle mondiale, Trump avait demandé à ce que le Trésor américain constitue des réserves en Bitcoin et autres cryptos. Il souhaite d'ailleurs que ces cryptos soient incluses à l'avenir dans les réserves de la Fed. Le soutien politique donc a nourri une telle fièvre spéculative que des grands groupes financiers institutionnels avaient estimé à l'époque que ce serait une faute de rester à l'écart d'un marché si profitable, et donc tous ou presque, en suivant le signal donné par le grand gestionnaire mondial BlackRock, se sont lancés dans cette fameuse course aux crypto-actifs. Donald Trump a aussi d'ailleurs misé de sa poche. Hein. Il a, juste au moment de son retour à la Maison-Blanche, il avait lancé son même Trump, puis le même Melania, le nom de sa femme. Aujourd'hui, le premier a perdu 70% de sa valeur de lancement, alors que le même Melania, lui, est tombé au prix résiduel de 0,12$, ce qui efface plus de 98% de son prix de départ. Hein. Il vaut moins cher qu'au départ. En début de semaine, l'économiste Nouriel Roubini, qui avait annoncé avant les autres l'imminence de la crise financière de 2008, la crise des subprimes, parce que oui, il y en a qui l'avaient vu venir, eh bien, cet économiste écrivait une tribune annonçant l'apocalypse qui vient pour les cryptos. Qualifier le Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie de monnaie a toujours été une erreur, dit-il. Il ne s'agit ni d'une unité de compte, ni d'un moyen de paiement évolutif, ni d'une réserve de valeur stable. La crypto-monnaie n'est même pas un actif, car elle ne génère aucun revenu, n'a aucune fonction, ni aucune utilité industrielle ou concrète, contrairement par exemple à l'or et à l'argent, qui sont quand même des matériaux aussi utilisés. Voilà ce qu'il dénonçait avant de prédire son effondrement. Et plus la chute se prolonge, plus les risques d'une crise s'accumulent. La baisse continue pourrait en effet forcer les acheteurs à accélérer leurs ventes et à acculer nombre de sociétés à la faillite, hein, une belle crise boursière, ce qui entraînerait tout le monde dans une spirale mortelle. Le danger est donc, vous l'aurez compris, bien que ces difficultés ne se concentrent pas uniquement dans le seul monde des cryptos, mais touchent par effet de contagion bien d'autres secteurs, compte tenu justement du fait que maintenant, la monnaie réelle et les cryptos sont mélangés dans pas mal d'investissements, notamment dans le monde financier. Beaucoup d'entreprises, particulièrement celles du domaine de la high-tech, ont décidé de placer leur trésorerie en Bitcoin ou autre Ether. Que ça soit par conviction libertarienne ou par attrait du gain, eh bien, ces entreprises, en moins d'une semaine, ont ainsi perdu 40% de leurs ressources financières. Alors, comment on va sortir de cette crise, me demanderez-vous ? Eh bien déjà, des responsables politiques et des millionnaires de la crypto s'inquiètent, et certains demandent au secrétaire d'État américain au Trésor s'il ne pourrait pas encourager les banques à acheter du Bitcoin pour soutenir le compte, le cours. Une demande des plus paradoxales, hein, puisque les cryptos se sont développées en brandissant justement leur totale indépendance par rapport à toutes les institutions étatiques. Ils ont réclamé de pouvoir évoluer sans aucun contrôle de l'État. Et une fois de plus, lorsque l'affaire tourne mal, elles en appellent à la protection de la puissance publique. Ce n'est peut-être qu'une question de temps d'ailleurs avant que celle-ci décide effectivement de sauver tout le monde. Si la crise du Bitcoin s'amplifie, certains n'hésiteront pas à agiter de nouveau le spectre d'une crise financière et à demander l'intervention urgente des banques centrales pour les soutenir en dernier ressort. Banques centrales qui sont, elles, financées et garantes d'une économie réelle et donc, en dernier lieu, eh bien, des économies de tout un chacun. La socialisation des pertes, on le sait, c'est maintenant une question d'habitude. Et c'était Mediapart qui nous a fourni cette petite analyse.
Alors, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sûr que c'est un coup de fantomas.
On termine avec des brèves météo en Colombie, où il y a eu au moins 22 morts et des milliers de sinistrés du fait de pluies exceptionnelles. Au moins 22 personnes donc, ont trouvé la mort en une douzaine de jours dans des inondations qui touchent la Colombie. Des milliers de familles se retrouvent sous l'eau en raison des fortes pluies qui sont inhabituelles à cette période de l'année. Dans les seuls départements de Cordoba et de Sucre, dans le nord, les autorités comptabilisent 14 morts et au moins 9000 foyers affectés par l'urgence, causés par un phénomène météo atypique qui a accru les précipitations. Dans cette région propice à l'élevage, les habitants tentent donc de sauver, à l'aide de petits bateaux de vedettes, des embarcations de fortune ou des camionnettes, leurs derniers biens dans une des zones les plus touchées, où l'eau arrive à la taille des riverains, selon tous les témoignages recueillis, notamment par l'agence France Presse. Ce dimanche, les autorités colombiennes avaient fait état d'au moins 13 morts au cours de la semaine écoulée dans différentes régions de la Colombie en raison des fortes précipitations. Un front froid qui a précipité à partir du nord du continent américain vers les Caraïbes colombiennes a augmenté ses précipitations de plus de 64% pour le mois de janvier par rapport à la moyenne, selon les chiffres de l'IDEAM, l'Institut d'hydrologie, météorologie et études environnementales. Et cet institut a souligné que le phénomène se produisait évidemment dans le cadre d'une crise climatique. On termine ces informations en musique avec le décès malheureusement d'un grand de la musique africaine, Ebo Taylor, guitariste, compositeur, chef d'orchestre, est décédé ce samedi. Il était Ghanéen, il a joué un rôle clé dans l'évolution de la musique populaire moderne d'Afrique de l'Ouest au cours de 6 décennies de carrière. Il est né à Cape Coast, il s'appelait DeRoy Taylor à l'époque, en 1936. Il a commencé à se produire dans les années 50, alors que le mouvement musical du High Life s'imposait justement comme le son dominant du Ghana dans ces années qui ont suivi l'indépendance du pays. Au début des années 60, Ebo Taylor se rend à Londres pour y étudier la musique. Il va travailler à côté d'autres musiciens africains, dont le géant pionnier nigérian Fela Kuti, avec qui ils vont échanger nombre d'idées. Tous deux fans de jazz et de musique américaine et participeront donc aussi à la naissance de l'afrobeat, un son qui sera plus tard considéré comme déterminant donc de l'afrobeat qui mélange le high life avec justement le funk, le jazz ou la soul politique. D'ailleurs, le high life a été inscrit le 10 décembre dernier sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est donc une reconnaissance internationale majeure pour une des traditions musicales les plus influentes d'Afrique de l'Ouest. Souvent décrit comme l'un des pères fondateurs de ce high life contemporain et donc aussi de l'afrobeat. Ebo Taylor est décédé un jour seulement après le lancement d'un festival de musique qui porte son nom dans la capitale du Ghana, Accra, et seulement un mois après avoir fêté son 90e anniversaire. On va donc s'écouter en son hommage quelques minutes du morceau qui s'appelle Love and Death, justement l'amour et la mort. Ebo Taylor avec nous sur les ondes de Radio Escapade.
the same.
C'était Love and Death de Ebo Taylor qui vient de nous quitter. C'est ainsi qu'on se quitte pour ces nouvelles du monde. Rendez-vous jeudi prochain à la même heure sur les mêmes ondes.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.